tu te réveilles la nuit pour me chanter des idioties comme Oh, Rasputin, Oh, Marilyn, Oh, Monsieur Plume. Faites-moi monter sur la lune, faites-moi visiter Saturne, car je suis con comme la lune.
Explorer l'espace.
Oui, con comme la lune.
Aujourd'hui, Rosetta, mission accomplie. Bonjour à tous, bienvenue dans la poursuite de cette aventure spatiale. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bibring et aujourd'hui, nous allons nous poser sur une comète. Nous allons bien sûr évoquer l'incroyable exploit de la mission Rosetta, une sonde partie 10 ans plus tôt, qui va s'approcher d'une comète située à plus d'un demi-milliard de kilomètres de chez nous et qui va réussir à poser l'atterrisseur Philae. Un exploit européen réalisé le 12 novembre 2014. Et il faut bien avouer, Jean-Pierre Bibring, que Philae, c'est un peu votre bébé.
Bonjour. Non, je ne le dirais pas comme ça. D'abord parce qu'il faut bien voir que toute cette exploration est vraiment, et c'est peut-être le plus intéressant, est une œuvre incroyablement collective. C'est vrai que c'était un pari totalement fou qu'essayer d'aller à la rencontre d'une comète pour s'y poser, parce que dans les années 80, quand on a décidé ça, on sortait juste d'une expérience qui était une expérience qui montrait qu'on pouvait aller à la rencontre d'une comète pour la survoler, mais on la survolait à très vive allure, on la survolait avec 70 km par seconde, vous voyez un petit peu. Donc c'était un défi de se dire, là on va être capable de ralentir pour se mettre à la même vitesse qu'elle, la suivre et ensuite se poser dessus au repos. Donc c'est vrai que techniquement c'était très compliqué. Mais si on a fait cela, c'est parce que, comme on fait toujours dans notre métier, en tout cas on essaye, c'est de coupler le défi technologique à l'ambition scientifique. Quand on a pensé à cette affaire-là, suite à ces expériences de survol de la comète de Halley, en fait c'est d'elle qu'il s'agit, en mars 86, ce que l'on avait découvert avec ces premières expériences cométaires nous tendait à dire que voilà, la prochaine étape, ce doit être d'aller se poser sur le noyau d'une comète. Donc, effectivement, on a essayé de regarder si ça avait un sens. Et un petit peu, toute échelle gardée, bien sûr, comme lorsque Kennedy a lancé le programme Apollo, il n'y avait pas les moyens de le concevoir. Eh bien, on s'est aperçu que lorsqu'on a essayé de voir si on avait une petite chance d'y arriver, les chances étaient bien maigres parce que il s'agissait de concevoir une expérience pour se poser sur un objet dont on n'avait aucune idée de ce à quoi il allait ressembler et fabriquer quelque chose capable de se poser sur quelque chose de très dur ou de très mou. Et d'ailleurs, l'expérience a montré que voilà, il y avait des véritables défis. Surtout qu'on en a rajouté des défis, bien sûr. On voulait se poser très loin, là où il faisait très froid, il n'y avait pas d'énergie. Bref, on a tout mis de notre côté, si je puis dire, c'est-à-dire contre nous. Et on est très heureux d'avoir finalement réussi d'une part à concevoir cette expérience-là, à convaincre les agences spatiales de nous soutenir, puisque c'est quand même cela, on nous a offert de pouvoir le faire, nous les comités scientifiques et les ingénieurs qui ont conçu cela, et puis finalement d'être capable de se poser avec la moisson de résultats dans lequel on est. En fait, on est au cœur de la mission actuellement, on n'est pas encore au bout du tout.
Alors, il s'agit du premier atterrissage contrôlé sur un noyau cométaire. Alors, pourquoi était-ce si important de se poser sur une comète?
Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est pourquoi on concevait que c'était important. Après, c'est l'histoire qui dira si on avait raison ou pas. Vous savez, d'abord, peut-être le contexte global, c'est que, comme on l'a vu un peu la semaine dernière, l'exploration du système solaire, c'est quelque chose de très récent. Et bon, parce que ça date de quelques décennies, les choses vont tellement vite qu'on a l'impression que c'est à nouveau de la préhistoire, cette affaire-là. Non, c'est par étapes que, progressivement, démarré au début des années 60, finalement, on a essayé de regarder à quoi ressemble le système solaire. Et plus on a observé des objets, plus on s'est aperçu que ce qu'on découvrait était très différent de l'image que l'on s'en faisait. Et donc, c'est un petit peu par étape, par palier, qu'on a essayé d'aller du plus facile au moins facile. Le plus facile étant d'abord d'essayer d'aller vers la Lune, parce que c'était le plus proche. On sait que c'est pas très, très compliqué. Il y a une gravité, mais pas trop forte. Bref, on a commencé par explorer cela. Puis ensuite, on a été un peu plus loin. On a été sur Mars. Et puis, plus on allait voir des objets, plus on s'apercevait que il fallait encore aller sonder d'autres objets du système solaire pour comprendre réellement ce qu'ils sont. Et donc, dès qu'on a eu la capacité d'aller à la rencontre d'une comète, on l'a fait. Et c'est ce qui s'est passé à la fin des années 70, début des années 80, lorsque les missions de rencontre de la comète de Halley sont nées. C'est la comète de Halley, c'est le plus gros de ces objets. Il faudrait peut-être dire ce que c'est qu'une comète, en tout cas ce qu'on pensait être une comète à l'époque. Et comètes, comme leur nom l'exprime d'ailleurs, parce que coma veut dire chevelure en latin, sont des objets qui tout d'un coup arrivent dans le ciel, ont une forme assez particulière avec cette chevelure et des grandes queues qui suivent. Alors tout le monde sait à quoi ça ressemble parce qu'on a vu des dessins, très peu de gens en fait ont vu des comètes, évidemment quelques-uns quand même parce qu'il y en a de temps en temps qui passent. Et puis ça arrive comme ça un beau jour, ça peut rester quelques jours, quelques semaines, et puis ça quitte et en général on ne les revoit plus. Et il y en a quelques-unes qui reviennent, qui sont des objets périodiques. Mais c'est des objets tout petits, en fait. C'est des objets qui font une fraction du kilomètre ou de l'ordre de quelques kilomètres. Le plus gros d'entre eux, c'est qui revient assez fréquemment, c'est justement celui qu'on appelle la comète de Halley. Pourquoi ? Parce que ce monsieur Halley, au XVIIIe siècle, il s'est aperçu qu'il y a un objet représenté dans des chroniques, ça peut être des dessins, des peintures, des choses écrites, qui a l'air d'avoir une certaine périodicité, une certaine récurrence, de 76 ans. Et il s'est dit, c'est bizarre qu'il y ait des gens, parce que voilà, quand une comète passe, si elle est spectaculaire, on peut pas ne pas la voir. Et comme elle, avant qu'elle arrive, elle n'était pas là et qu'après on ne la voit plus, les gens se sont dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Et donc cette comète de Halley, parce que c'est la plus spectaculaire, chaque fois qu'elle est passée, dans les bonnes conditions d'observation, les gens qui regardaient le ciel l'ont représenté d'une manière ou d'une autre. Donc on a des chroniques comme cela, qui datent de plusieurs milliers d'années d'apparitions de comètes, et certains ont essayé de regarder s'il y avait une récurrence. Et donc Halley est le premier à avoir montré qu'un même objet semble avoir été responsable de 3 ou 4 passages successifs. Et il a prédit que, en 1759, exactement, pour Noël, il devrait revenir, s'il avait raison. C'est peu de temps après que Newton ait montré que la gravité faisait que les objets étaient liés au Soleil, etc. Et effectivement, cet objet-là est revenu. Il est revenu, Monsieur Halley était mort entre-temps, mais il est revenu à quelques mois près à ce que Halley avait prédit. C'est pour ça qu'on l'appelle la comète de Halley. Donc c'était l'objet le plus brillant de ces objets qui nous revient tous les 76 ans. Et c'est un objet, en fait, qui ne fait jamais que 20 km. Mais quand il s'approche, comme il est fait essentiellement de glace, en tout cas on le pensait, cette glace au contact, à proximité du soleil, se transforme en vapeur. Et c'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle la coma et les chevelures. C'est de la vapeur d'eau, essentiellement. Et donc, cette comète était venue en 1910. Elle avait été bien vue en 1910 parce qu'on commençait à avoir des appareils photo, elle était bien documentée, donc on savait que 76 ans plus tard, c'est en 1986, elle allait revenir. Et comme en 86, on commençait à savoir faire des sondes spatiales, on s'est dit on va aller à sa rencontre. Il y a 5 sondes spatiales qui ont été à sa rencontre. 2 sondes soviétiques, 2 sondes japonaises et 1 sonde européenne. C'est la première fois que l'Agence spatiale européenne, qui a été très récente, elle a été créée en 73, a fabriqué un engin qu'ils ont appelé Giotto. Pourquoi Giotto d'ailleurs? Parce que Giotto est ce peintre de la Renaissance qui, en peignant l'Annonciation, au moment où apparaissait cette comète-là, a mis une comète dans le ciel comme la fameuse étoile de Bethléem, qui se trouve d'ailleurs ne pas être l'étoile de Bethléem, mais ça, il n'avait pas de raison de le savoir. Et donc, pour ça que l'Europe, puisque Giotto était de Padoue, a baptisé cette sonde Giotto. Ces 5 sondes sont donc parties à la rencontre de ce noyau cométaire qui arrivait tout proche du plan de l'écliptique, parce qu'il a traversé au début du mois de mars 86. Et il y a une moisson de résultats absolument incroyable. Je ne vais pas aller dans les détails, mais le plus important peut-être est celui-ci. On allait voir un objet dont on savait qu'il y avait de la glace dedans, puisque c'est parce qu'il y a de la glace qui se transforme en vapeur d'eau qu'on le reconnaît. Et donc on allait voir un objet dont les gens pensaient qu'il était pour 80% de la glace d'eau. Et si vous allez voir un objet qui est fait de glace d'eau, ben il est brillant. Si le Mont Blanc s'appelle le Mont Blanc, c'est parce qu'il est fait de glace. Et donc, on pensait aller voir un objet brillant. Eh bien, le premier résultat, le plus important peut-être, vu par toutes ces sondes, c'est que le noyau de la comète de Halley, c'est la première fois qu'on rentrait dans la chevelure pour aller le voir de près. De près voulant dire quelques milliers de kilomètres, ce qui est rien à côté de la taille. La chevelure, elle fait 1 million de kilomètres. On a percé la chevelure pour aller voir de près ce que c'est que ce noyau. Et les images, tout d'un coup, qu'on a vues de ce petit bloc de glace au centre, c'est que ce bloc de glace, c'est l'objet le plus sombre du système solaire qu'on avait jamais vu. Il est 3 fois plus sombre que les zones les plus sombres de la Lune. C'est du noir de charbon. Tout d'un coup, on s'est dit, mais comment se fait-il qu'un objet que l'on croyait être de glace, et donc d'ailleurs les analyses que l'on avait montraient qu'il y avait beaucoup de glace dedans, comment est-ce qu'on peut penser qu'il est si sombre? Et tout d'un coup est venue une idée qui s'est avérée très importante, qu'on a eue en exploitant le peu de données qu'on avait. En fait, on a eu très peu de données, d'abord parce que le survol a duré 2 minutes, vous voyez, il fallait travailler vite. tellement on allait vite par rapport au noyau cométaire, on est passé comme une fusée à côté, si on peut dire. Mais surtout, les instruments qu'on avait, ils n'avaient pas prévu, ces instruments, d'analyser un objet si sombre, puisqu'on pensait qu'ils étaient, que c'était l'objet le plus brillant qu'on verrait. Donc on a eu peu de données, mais malgré tout, suffisamment de données pour essayer de faire des hypothèses importantes. Et l'hypothèse que l'on a faite, c'était que si cette glace est tellement sombre, elle a piégé dedans des molécules comme de la suie qui absorbe. Et là, on s'est dit tout d'un coup, mais ça peut être très important, parce que chaque fois que la comète passe près du Soleil, il y a plusieurs dizaines de mètres qui partent. Ce qui veut dire que quand elle revient, ce qui était à la surface, c'était très enfoui avant. Donc les molécules qui sont à la surface, que l'on voit, c'est des choses qui sont là depuis que la comète est comète. Et donc, on a devant nous un objet dont on peut penser qu'il y a certainement de la glace, mais que cette glace a piégé des molécules, qui peuvent être des molécules très absorbantes. Et l'idée est venue que peut-être ces molécules, c'est des composés carbonés, et donc des molécules qu'on appelle organiques, des composés carbonés, dont on n'a pas pu savoir la composition, mais dont on a montré qu'en fait, ils pouvaient avoir des propriétés peut-être très importantes. Et comme ils étaient là depuis que la comète est comète, c'est-à-dire depuis que le système solaire s'est formé, l'idée est venue que peut-être que ce matériau-là pourrait avoir un rôle sur l'émergence de la vie, parce que peut-être qu'il y a justement dans ce matériau-là les ingrédients qui ensuite, une fois qu'ils arrivent dans les océans de nos propres planètes, donc les océans terrestres en particulier, ils pourraient avoir ensemencé nos océans avec ce matériau-là. Sauf que, bien sûr, on n'avait pas d'autres indices que ce que ces expériences de survol ont montré. Et on s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme prochaine étape ? Et l'étape que l'on voulait faire, c'était une étape qui consistait à aller sur un noyau cométaire et cette fois-ci se poser dessus, mais se poser dessus pour prendre un bloc de glace et le ramener sur Terre. Parce qu'on s'est dit, au moins avec nos laboratoires, dans nos laboratoires, avec nos instruments, on pourra savoir ce que c'est que ce matériau-là. Et toutes les agences spatiales de l'époque, c'est-à-dire la NASA, américaine, l'ESA, européenne, les soviétiques qui sont mis dedans, on a conçu cette expérience qui s'appelait CNSR, qui était les initiales de Cometary Nucleus Sample Return, retour d'échantillon d'un noyau cométaire. Et ce qui s'est passé au bout de quelques mois, c'est que les Américains sont retirés de la bagarre. Ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas ou on ne veut pas le faire. Et ceux qui restaient, c'est essentiellement l'Europe, n'avaient pas les moyens de faire l'ensemble de la chose. C'est-à-dire aller sur un noyau, prendre un kilo ou deux ou quelques kilos de glace et le rapporter indemne, si on peut dire, intact sur Terre. Et on s'est dit, si on n'est pas capable d'aller sur ce noyau et le rapporter ici pour l'analyser, ben on va faire l'inverse. On va fabriquer un laboratoire qu'on va aller poser dessus. Et c'est comme ça qu'est née Rosetta. Rosetta est née de cette idée que l'étape suivante dans la compréhension de ce qu'est ce matériau, qui se trouve être le matériau d'origine du système solaire, eh bien, il faudra bien l'analyser. Et si on ne peut pas le rapporter sur Terre dans une première étape, allons sur place. Et on a donc eu cette idée de fabriquer un laboratoire pour aller sur place le poser. Et c'est comme ça qu'on a convaincu, en quelques années, l'Agence spatiale européenne de faire cette mission Rosetta, qui a été finalement décidée en 1993.
Jean-Pierre Bibring, vous nous parlez de molécules organiques, vous nous parlez de glace, donc d'eau, et la question des origines de la vie est bien sûr omniprésente. Alors voilà comment on l'évoquait en 1975 dans une émission de France Culture intitulée « Avons-nous des semblables dans les galaxies ?»
On est surpris de voir qu'au départ, on ne connaît que des étoiles de type même plus froides que le Soleil.
Mais en tout cas, qui ne sont pas... contraire
qui ne sont
à l'existence
pas contraire.
D'un système planétaire genre.
Non, le Soleil serait moins chaud, oui. Il y aurait peut-être la vie sur Mercure, par exemple, actuellement, ou sur Vénus.
Oui. Ah oui, on peut imaginer très bien une étoile complètement différente du Soleil, mais à ce moment-là, la planète favorable ne serait plus à distance de la Terre.
Les sens seraient différents. Il n'y aurait sans doute qu'une ou peut-être deux, mais il y aurait une distance peut-être favorable.
C'est ça. Mais alors, des planètes, des étoiles du type G ou N, sont très nombreuses dans notre galaxie. Il y en a un très grand nombre. Par conséquent, le nombre de systèmes planétaires possibles est assez élevé.
Quand on soumet l'hypothèse de l'existence d'une civilisation comme la nôtre, en dehors de la Terre, à des calculs, on peut envisager tous les facteurs. Il y en a un certain nombre. Et en particulier, il faut commencer par songer qu'une étoile peut être double. C'est même très fréquent.
Plus on regarde... disons tout, les systèmes doubles ou triples ne peuvent pas avoir des systèmes planétaires.
Non, c'est peu favorable. On voit difficilement une planète qui serait ballottée entre deux étoiles, peut-être inégales, se rapprochant de l'une, s'écartant de l'autre.
Oui, on voit difficilement moins 50 un jour et
on voit difficilement
100,
un jour ou une année, c'est bien pareil.
Oui.
Alors ça, il faut les... Or, il y en a beaucoup. Il y en a au moins une sur trois qui est double ou multiple, finalement. Ou qui fasse partie d'un système multiple ou double. Ensuite, il faut voir si cette étoile peut être considéré comme ayant des planètes ou n'en ayant pas. Ça, on ignore tout à fait, parce qu'on n'a jamais décelé des systèmes planétaires de façon positive en dehors du Soleil. On a décelé, dans certains cas, la vraisemblance d'un corps obscur près d'une étoile.
Mais on ne peut pas savoir si c'est une planète ou
autre. Mais c'est peut-être une étoile presque éteinte ou une grosse planète comme Jupiter qui n'est pas favorable non plus.
De toute manière, c'est un corps assez massif. Oui. Bah, sans ça, il ne donnerait pas de déviation de la trajectoire de l'étoile. Il ne ferait pas onduler la trajectoire de l'étoile. Eh bien, les corps très massifs sont contraires à notre
hypothèse. Ils ne sont pas favorables. Bien qu'on ne peut pas dire, on peut même dire qu'on n'a jamais décelé avec certitude un système planétaire où on puisse espérer qu'il y ait une Terre comme la nôtre. Mais enfin, l'hypothèse doit être retenue, bien entendu. Il n'y a aucune raison de l'écarter, mais toute raison de l'adopter. Ensuite, il faut savoir si une de ces planètes, en admettant qu'une étoile en ait un certain nombre, est habitable. Là encore, on peut penser, d'après ce que le professeur Joseph tout à l'heure, que si les privilèges de la Terre existent, eh bien dans chaque système, une planète peut avoir le même privilège. C'est même assez vraisemblable.
Mais tout à l'heure, M. Auger parlait d'un, quelque sorte d'un accident, enfin, ou on peut peut-être pas l'appeler un accident, c'est peut-être voulu dans le fond, que les premières plantes ont continué à tracer le chemin de la vie, les premières algues.
Ah oui, mais ça, c'est l'autre condition, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle apparaisse, la vie.
Voilà, alors, est-ce qu'à une planète donnée, on pourra quand même...
J'allais vous le dire, c'est la chose suivante, il y a un facteur, y a-t-il des planètes, un autre facteur, y en a-t-il une qui soit habitable, et... Un autre facteur encore, est-elle habitée ? La vie est-elle apparue ou non ?
Mais si on faisait des statistiques comme à la roulette, on tomberait à quelle chance ?
Tout ça encore, c'est sans le facteur temps, que nous verrons à la fin.
Mais attendez, je voudrais même dire que les probabilités de l'apparition de la vie sur une planète dans le genre de la Terre, avec de l'eau,
très
avec des conditions... La probabilité, je crois, est grande.
Pratiquement un.
Pratiquement un, elle est grande.
C'est-à-dire qu'à tous les coups, si on réunit les conditions telles que présentait la Terre dès le départ,
la vie doit apparaître.
Elle apparaîtra. Oui, naturellement, si vous lui donnez le temps, pas en un ou deux millions d'années, mais en 100 millions d'années, elle apparaîtra. Voilà.
Alors à partir de là, il reste le dernier facteur, apparition non seulement de la vie, mais d'êtres intelligents. Alors ça, c'est au fond uniquement une question de temps, vraisemblablement.
Il faut que la vie se complexifie.
Il est probable qu'une fois que la vie est apparue, elle prend ce chemin.
Moi, je donne un milliard d'années minimum.
Voilà, c'était en 1975. Alors, si on vous suit bien, Jean-Pierre Bibring, donc on a compris que ce noyau cométaire, c'était un moyen de remonter dans le temps. Philae est en fait un petit laboratoire portatif qui est capable de faire des analyses sur place. Et du coup, on se pose cette question des fameuses chaînes carbonées qui seraient les bases de la vie.
Oui, c'est passionnant d'entendre justement ces scientifiques à nouveau. 1975, c'est pas si vieux que ça malgré tout. Et ça remet un petit peu à plat le niveau de connaissance et comment les choses ont évolué. En 1975, comme c'est dit dans ce reportage, on ne savait pas, on imaginait, mais on ne savait pas s'il y avait des planètes ailleurs dans notre galaxie. On n'en avait jamais détecté. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont proposé, qu'autour de toutes les étoiles que l'on voit, il y a des planètes dans l'Antiquité déjà. Si vous regardez Épicure, le proposait, il pensait même qu'il y en avait une infinité. Et puis Giordano Bruno l'a reproposé, etc., là, avec la pluralité des mondes. Mais tout ça, c'était des hypothèses. On n'avait absolument aucun moyen de le... Et comme on le reverra d'ailleurs, c'est 20 ans après ce reportage... On a mis en évidence les premières exoplanètes, comme on dit, c'est les premières planètes autour d'autres étoiles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est aperçu qu'il n'y en a justement pas qui ressemblent à ce qu'on pouvait imaginer être hein, ou devoir être ces planètes. Mais il reste toujours cette idée, et c'est ça qui m'intéresse dans ce reportage, et qui va nous rebrancher avec les affaires Rosetta, c'est que, qu'on le veuille ou pas, on essaye toujours de démontrer que la probabilité est grande, et d'ailleurs il est dit plusieurs fois ici que la probabilité est 1, que nécessairement la vie existe, que s'il y a les mêmes conditions, ça va aboutir au vivant, et on dit même que si le vivant existe, forcément il y aura même des civilisations. Je pense que, franchement, les mêmes personnes d'ailleurs qui ont été interviewées, si elles sont encore là aujourd'hui, elles ne diraient pas la même chose aujourd'hui. Parce que la grande leçon de tout ce que l'on découvre et comprend aujourd'hui dans le système solaire, c'est que justement ces affaires de probabilité sont pas ce qu'elles sont. On a vu l'autre jour à propos de la formation de la Lune, à quel point la Lune était importante pour l'évolution de la Terre. Et maintenant que l'on sait ce qu'on ne savait pas à l'époque, en 1975, on ne savait pas comment la Lune s'est formée. Le processus qui a conduit à non pas une Lune, mais cette Lune-là, c'est-à-dire une Lune qui a pu avoir un effet sur la Terre, est un phénomène de très faible probabilité, vraisemblablement. À nouveau, fabriquer des Lunes, c'est très probable. Fabriquer des Lunes qui ont une capacité d'avoir ce rôle majeur sur l'évolution de la planète autour duquel elle gravite, ça, c'est une autre affaire. Et donc, cette histoire de l'émergence du vivant, où on met les mêmes conditions et que ça va forcément aboutir à quelque chose, ça met en place des dogmes, en fait, je crois, qui sont actuellement très fortement bousculés. Et Rosetta y contribue. Et quand on voit, et c'est ça qui est étonnant d'ailleurs, c'est que quand on a conçu l'expérience Rosetta, la mission Rosetta avec son module Philae, on était en plein dans ce dogme-là encore. C'est-à-dire que les questions qu'on se posait, les questions que l'on, auxquelles on pensait que Rosetta répondrait, ne sont plus les questions qui sont posées aujourd'hui, maintenant que Philae est sur place et que Rosetta sont sur place et qu'elles doivent essayer de faire avancer la question, le questionnement. Les questions ont changé parce que en 20 ans, et peut-être même en 10 ans, en particulier avec ce qui a été fait à la surface de Mars, mais on le reverra, c'est l'ensemble de l'exploration du système solaire qui a changé totalement le type de questions que l'on se pose, en particulier sur cette question d'unicité ou pas de la Terre et de ce qu'elle porte, c'est-à-dire du vivant. Alors dans les années 80, tout le monde était convaincu que la manière d'arriver à ces fameuses macromolécules qui ont été clés pour le vivant, ce qu'on appelle les briques du vivant, ce que l'on pensait, c'était que si vous prenez des petites molécules, des petits composés moléculaires, du méthane, du gaz carbonique, donc CO2, CH4, et puis vous mettez de l'énergie dans le système, vous allez réussir à polymériser tout ça, faire des chaînes, et c'est comme ça que vous allez fabriquer des sucres, et puis des acides aminés, et puis des protéines, et puis que finalement vous arrivez, etc. Et que ce n'est qu'une affaire de temps. Mais que, à partir de petits ingrédients, vous ferez forcément le mélange qui va aboutir à cela. Il y a un grand physicien, Urey, qui a été le prix Nobel pour la découverte du deutérium, qui, avec son étudiant Miller, dans les années 50, a même conçu des expériences qui se poursuivent du reste aujourd'hui, qui sont très intéressantes, qui montrent que si dans un petit récipient, vous mettez un mélange de petits composés comme ça, des petites molécules, l'eau sous l'hydrogène sous forme d'eau, l'azote sous forme de NH3 ou N2 et du carbone, vous mettez de l'énergie là-dedans, vous simulez des éclairs, vous faites des décharges électriques, eh bien, vous avez un résidu qui se forme avec effectivement des macromolécules, des grandes chaînes organiques, dont certaines qui sont très absorbantes, très sombres. Et c'est ça qui a toujours été le processus favorisé pour l'émergence de la vie. Sauf qu'on n'a jamais pu montrer qu'à partir de ça, vous faites ce que Oparin appelait le premier coa serva, c'est-à-dire le premier organisme qui pourrait ressembler à une cellule avec une membrane, etc. Probablement parce que justement, vous fabriquez trop de composés, vous n'êtes pas assez spécifique. C'est vrai que vous fabriquez énormément de choses, qu'on a une synthèse, mais elle est justement probablement pas assez spécifique. Et ce qui s'est passé en 86 avec les expériences de survol de la comète de Halley, c'est que justement quelque chose d'autre tout d'un coup est sorti. Cette idée que finalement, la vie sur Terre est peut-être pas née d'un processus qui fabriquerait des macromolécules à partir de petits composés qui étaient probablement là dans l'atmosphère primordiale de la Terre, mais qui avait eu déjà des macromolécules très particulières qui ont pu être celles que l'on trouve dans les noyaux cométaires, qui ont été bloquées dans la glace cométaire et qui ont été ensemencées dans nos océans. Et que ce qu'il faudrait, c'est connaître précisément ces molécules-là, parce que peut-être que celles-là, formées dans une chimie qui n'a rien à voir, qui est la chimie de l'effondrement du nuage qui a donné naissance au Soleil d'une part et aux planètes à côté, peut-être que c'est cette chimie-là qui a, dans sa spécificité liée à la manière dont notre système s'est effondré, pu te conduire à, non pas énormément d'acides aminés, mais les 20 peut-être dont la vie a eu besoin après, la vie en tout cas telle qu'on la connaît sur Terre. Et que c'est pour ça qu'il faudrait avoir accès à ce matériau-là. Et une grande partie de ce que l'on a essayé de faire, et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec la mission Rosetta, et avec en particulier Philae, c'est justement de percer ce mystère-là, si on peut dire, de quoi est fait ce noyau cométaire. Et tous les résultats que l'on a vont dans le même sens, qui est de dire effectivement, contrairement à ce qu'on imaginait, un noyau de comète, c'est pas un grand bloc de glace avec des petites molécules dedans. La matrice même, celle que l'on a pu voir sur les images que l'on a faites quand on s'est posé là-dessus, on voit ces images du noyau cométaire jusqu'à des grains qui font quelques millimètres. Ces grains, ce sont des grains faits de cette matrice organique. Ce sont des chaînes moléculaires à base de carbone, avec probablement de l'azote, du phosphore, qui sont déjà très évoluées, mais probablement très spécifiques. Et que ce sont ces molécules-là, sous une croûte qui existe, qu'on ignorait bien sûr, être à la surface de ce noyau cométaire, qui peuvent protéger l'ensemble du noyau cométaire dans sa rentrée atmosphérique. Et que c'est pour ça que c'était extraordinaire. Les rebonds de Philae nous ont embêtés quelque part, puisqu'on ne s'est pas posé là où on souhaitait. Mais finalement, on s'est posé dans un endroit encore plus intéressant, parce qu'on a devant nous, au premier plan, ce matériau extraordinaire, qui est la matrice même à partir duquel tout le système solaire externe s'est formé. Et on a pu montrer qu'à cause des tresses thermiques, ce matériau-là se fabrique une petite croûte qui nous a, nous, imposé de rebondir, mais qui est protectrice quelque part. Parce que si c'était que de la glace, un noyau cométaire, quand ça rentre dans une atmosphère dense, qui était l'atmosphère des planètes primordiales, ça n'arrive jamais jusqu'au sol, ça se vaporise avant, et vous ne pouvez rien fabriquer dans nos océans. Et donc vous n'avez que des petits composés, et puis il faut tout recommencer la chaîne. Là, vous partez avec un matériau qui probablement est déjà très complexe et très évolué, mais très particulier, très spécifique à nouveau. Et vous avez, dans votre noyau cométaire, grâce à cette croûte de surface, moyen de percer votre atmosphère et d'amener ça là où des vraies réactions vont pouvoir avoir lieu, qui seront les océans planétaires, en tout cas les océans terrestres. Donc c'est ça qui est pour moi le plus important de ce qui se fait actuellement. C'est qu'on bouscule un dogme très important sur la manière dont la vie a pu émerger et évoluer, qui est à nouveau... On parle de petites molécules et de toute manière, on va fabriquer ce qui va aboutir au vivant. Non, on ne va pas aboutir au vivant à partir de petites molécules. Si vous prenez des petites molécules et que vous mettez à peu près quelle forme d'énergie que ce soit, vous allez complexifier vos affaires, mais vous ne pourrez pas appeler ça nécessairement du vivant, contrairement à ce que l'on pensait il y a encore 10, 15, 20 ans et forcément plus. Et à nouveau, la raison pour laquelle on pensait cela, c'est que c'était imposé par un dogme, à nouveau, qui n'était basé sur aucune mesure, aucune observation. C'est ça qui est extraordinaire. Vous regardez toutes les observations astronomiques au 19e et au 20e siècle. Toutes sont toujours tournées vers l'interprétation des données en direction de ce dogme pour donner vie à cette idée que partout il y a la même chose que sur Terre. Il y a des canaux sur Mars et on voit quasiment des Martiens, etc. Et donc, cette idée que les processus qui ont conduit à l'apparition du vivant sur Terre sont des processus nécessairement génériques qui se trouvent égaux. Pourquoi ? Parce que c'était un tel combat au XVIe siècle, quand on se souvient de ce qu'il y a... Vous savez que Copernic, dans son texte fondateur, qui a été publié en 1543, il était tellement hérétique qu'il a été publié l'année de sa mort, 1543. Et que celui qui a pris ça tout de suite pour le mettre à un niveau supérieur, avant même Galilée, puis ensuite Newton, qui s'appelle Giordano Bruno, qui était à Padoue, qui lui a non seulement été convaincu de l'idée de Copernic, mais il a rajouté cette idée absolument extraordinaire, qui est que tous les petits points qu'on voit la nuit... Les étoiles et le soleil sont de même nature. Et donc, il y a, à l'époque, il y avait une infinité d'étoiles. On pensait que l'univers était infini, statique et infini. Donc, il y aurait une infinité de soleil. Et si une infinité de soleil, c'est qu'il y a une infinité de terre, puisque la terre est tout sauf unique. Elle est parfaitement banale. Pour ça, il a été dénoncé, arrêté, brûlé vif, février 1600, sur le Campo dei Fiori à Rome. Donc, c'est pas une mince affaire. Et vous voyez finalement la physique se construire à partir de là pour quelque part asseoir ce dogme que partout, à toute échelle, c'est les mêmes lois qui opèrent. Et si c'est les mêmes lois qui opèrent, il y aura les mêmes effets. Et donc, la vie est nécessairement un produit nécessaire, précisément, de l'évolution. Et quand le spatial démarre, il y a un peu plus de 50 ans, on est tous, tout le monde est dans ce dogme. Et tout le monde interprète tout là-dessus. Je vous l'ai dit la semaine dernière à propos de l'image de la Terre vue de l'espace, la première interprétation de la Terre, c'est que ouais, la Terre est comme les autres. Et il a fallu 20, 30 ans, 40 ans d'exploration du système solaire pour voir que justement ce qu'on trouve, le fait qu'elle est bleue, le fait qu'il y a des nuages comme ci et comme ça, justement, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Donc aujourd'hui, on essaie de comprendre les chemins qui ont conduit à cette diversité, et en particulier avec l'émergence de la vie, en tout cas ici, pour savoir si c'est un phénomène très probable ou pas. On n'a pas la réponse, bien sûr. On ne sait pas. Il se peut que la vie soit suffisamment robuste pour être capable de s'adapter à d'autres environnements. Mais il n'est pas exclu que non. Que ce qui a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui procède d'une évolution, non pas avec un grand dessein, je ne dis pas du tout que quelqu'un a souhaité cela, mais une succession de phénomènes qui chacun sont d'une probabilité tellement faible que voilà, quand on est dans cette chaîne-là, ben ça aboutit à ça. Et puis il y a une autre chaîne qui va conduire à autre chose, qui n'a pas de hiérarchie. Ce qui s'est passé, qui a conduit à Vénus, à Mars ou à Jupiter, n'est pas mieux ou moins bien, c'est autre. Et cette autre chose a conduit à ce que aujourd'hui on commence à comprendre pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Si la vie est là aujourd'hui, il faut comprendre quelles en sont les briques primordiales. Eh bien, ce que montre Rosetta, c'est qu'on a probablement l'ensemble du matériau là, y compris peut-être les acides aminés qui vont bien, les enzymes qui permettent à la vie de se fabriquer réellement.
Alors, si je vous suis bien, Jean-Pierre Bibring, à la fois, on s'éloigne un peu de cette image de soupe primordiale qui, mécaniquement, chimiquement, va produire du vivant. En fait, il y a eu un ingrédient qui était dans cette marmite des comètes, des noyaux cométaires, qui était dans une glace, contenue dans une glace. Mais en même temps, ça n'exclut pas complètement que le phénomène se reproduise ailleurs.
Voilà. Alors, d'une part, il faut bien voir que c'est le début d'une réflexion sur la base de ces résultats et c'est certainement pas encore un consensus. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la notion de soupe primordiale peut encore être efficace, et peut-être qu'elle l'est d'ailleurs. Donc je ne suis pas en train de dire que pour l'instant on met à bas cette autre hypothèse. On est en train d'en proposer une autre. Et bien sûr, une fois que l'on se dit que ces molécules ont été formées dans l'effondrement même du nuage, bien sûr la question qui se pose après, c'est de se dire, est-ce que tout nuage qui s'effondre, qui va donner naissance à une étoile et des planètes, et on sait que c'est un phénomène extraordinairement général, puisqu'on est à peu près convaincu maintenant que la plupart des étoiles que l'on voit ont des planètes autour, ça ne veut pas dire pour autant que les planètes sont du même type que les nôtres. Et est-ce que cet effondrement-là, qui a donné naissance à notre propre système, n'a pas aussi signé une chimie extraordinairement particulière ? Eh bien, on n'a pas la réponse à cette question et peut-être que c'est ce qui nous restera de plus frustrant de la mission Rosetta avec Philae. C'est qu'on avait à bord de quoi faire une expérience qui aurait pu être tout à fait fondamentale. On n'a pas pu la faire parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire en novembre 2014 et qu'on n'a pas été capable de la relancer après, hélas, à cause de la manière dont ce Philae a accepté de se poser finalement. L'idée est la suivante. Vous savez que c'est toujours un petit peu compliqué avec les ondes de le dire, mais les molécules que l'on a, les macromolécules, elles ont des formes tout à fait particulières. Et des formes telles que, avec les mêmes groupements fonctionnels, on peut des formes qui se voient dans un miroir, qui sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Eh bien, et qui ont, ces molécules-là, un pouvoir rotatoire, comme on dit, par rapport à la lumière. Elles polarisent la lumière, mais d'un côté ou de l'autre, vers la droite ou vers la gauche. La chiralité. Mmh. Eh bien, cette chiralité, elle est d'un certain type pour certaines des molécules, d'ailleurs, lévogyre ou dextrogyre, selon les molécules que l'on retrouve. D'où cela vient? Eh bien, il n'est pas exclu que cette chiralité, qui est à l'origine du vivant terrestre, elle était fabriquée dans l'effondrement même du nuage par le fait que certaines des molécules, celles qui étaient le plus proches, bloquées dans des noyaux cométaires qui ont pu venir jusqu'à nos océans, ont reçu un rayonnement du Soleil, mais que le rayonnement du Soleil, au moment où le Soleil a pu effectivement modifier par son propre rayonnement ces molécules-là, avait, parce qu'il tournait sur lui-même et que les couches externes avaient aussi une rotation sur elles-mêmes, ce rayonnement était lui-même polarisé et en polarisant ce rayonnement d'une certaine manière, ça a polarisé certaines des molécules qui ont importé ce côté avec cet excès énigmentaire, comme on dit, cet excès de chiralité d'un côté plutôt que l'autre. On n'était pas symétrique probablement au démarrage. Et ça, on aurait pu le mesurer parce que si c'est vrai, eh bien, le noyau cométaire lui-même doit être riche de cet excès. Et on avait à bord, et on a toujours à bord de Philae, de quoi mesurer cet excès-là. On n'a pas pu le mesurer. Donc, ça sera pour la prochaine mission. Mais toute belle mission, en fait, a toujours un demain.
Toute belle mission a toujours un demain, mais aussi un hier, puisqu'on voit que l'aventure spatiale est une aventure au long cours. Et je trouve assez émouvante l'archive qu'on va écouter maintenant, qui date de 2008. C'est l'émission Continent Science de Stéphane Delisgorges. C'est peut-être la première fois pour le grand public qu'on entend parler de la comète Churyumov-Gerasimenko. C'est Azar Kaladbari qui se lance dans un exercice quasi visionnaire. Nous sommes en 2008.
Je vais vous donner des nouvelles de la sonde Rosetta. Alors, samedi dernier, donc, nous avons reçu une photo de la part de la sonde Rosetta, une photo sublime. C'est une photo qui a été prise à 360 millions de kilomètres de la Terre. Donc, c'est dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, c'est l'astéroïde Stans, qui ressemble à un diamant très lumineux, qui est taillé un peu comme un diamant. Donc voilà, sur un fond noir, on a l'impression d'un diamant...
Avec des facettes.
Avec des facettes, oui.
Oh là là.
Et qui a en fait un albédo élevé, donc qui apparaît de très lumineux. Et donc, voilà, là, c'est assez extraordinaire d'avoir une photo d'aussi près, puisque la sonde Rosetta a photographié donc cet astéroïde à 800 km seulement. Alors, on le découvre avec des cratères d'impact très, très nombreux, ce qui signifie qu'il y a eu un passé riche en collisions et probablement que cet objet est un fragment d'un autre objet, d'un planétoïde un peu plus volumineux.
Plus important.
Plus important. Voilà, que l'on découvre comme ça. C'est un astéroïde silicaté, ce qui est rare aussi dans sa classe. Alors, les photos sont en cours d'analyse, mais la sonde Rosetta continue. Parce que elle n'est pas.
Elle a encore du boulot.
Elle a encore du boulot, voilà. Elle est très loin de son but. Son but qu'elle atteindra en 2014. Donc, oui. On va encore en entendre parler.
Et elle a été lancée en quelle année? Est-ce que vous vous en souvenez?
En 2004.
Ça 2004.
En 2004. En mars 2004. Et elle atteindra son but en 2014. Donc, son but est situé à peu près 700 millions de kilomètres de nous. C'est donc dans la région aux confins du système solaire. Et son point de rendez-vous, c'est une comète. C'est une comète au nom imprononçable.
Allez,
Churyumov-Gerasimenko. Voilà, donc cette comète Rosetta va approcher cette comète. Et chose extraordinaire, à bord de Rosetta, il y a un petit atterrisseur qui s'appelle Philae. Donc, arrivé aux abords de la comète, après une cartographie des régions pour l'atterrissage, pour un atterrissage simple, Philae va pouvoir arriver sur la comète et en
Quelle
faire
chose,
l'analyse. Oui. Et alors, une petite devinette, est-ce que Stéphane, vous vous rendez compte comment est-ce que on va pouvoir se poser sur un objet qui fait 5 km de diamètre et qui se déplace à 700 millions de kilomètres de
oui,
nous
oui.
Eh bien, Philae va envoyer un harpon.
Eh oui, parce que c'est de la neige
comète.
Sale.
C'est de la neige sale.
Eh oui, la célèbre neige sale des comètes.
Voilà, donc on va envoyer un harpon et s'accrocher de cette manière et se rapprocher progressivement pour pouvoir analyser la composition chimique et les propriétés physiques de cette comète.
Donc, rendez-vous
en 2014.
Peut-être vous pourriez nous rappeler, Azar Kalatbari, quels sont les promoteurs de Rosetta.
C'est l'Agence spatiale européenne.
Merci
tout à fait.
Beaucoup de
tout
le
à
dire.
Fait. Et il faut aussi dire, pour les économies d'énergie, qu'entre 2011 et 2014, la sonde Rosetta va être dans un état dormant et ne va pas envoyer d'informations pour faire des économies d'énergie.
Voilà.
Et elle se réveillera aux abords de la comète.
Jean-Pierre Bibring, on peut peut-être un peu mesurer les prouesses qu'a enchaînées cette mission Rosetta. Alors déjà, l'incroyable vertigineuse approche, finalement, ce tourbillon triangulaire pour approcher de la comète, choisir l'emplacement, réussir à harponner vraiment la comète, c'était assez incroyable.
Oui, c'est... L'Agence spatiale européenne, avec cette sonde Rosetta, cette mission Rosetta, a fait des choses absolument inédites d'une part et que personne n'avait été capable de faire. C'est-à-dire aller à la rencontre d'un objet cométaire, se mettre à la même vitesse qu'elle et progressivement ce qu'on peut appeler en orbite. Sauf que pour être en orbite, il faut de la gravité. Il y a très peu de gravité. Donc choisir une orbite, si je puis dire, une trajectoire qui va nous permettre de suivre autour du Soleil le même mouvement que celui de la comète lui-même. Donc ça, c'était très compliqué. Mais c'est vrai qu'il y avait 60 mètres carrés, il y a toujours 60 mètres carrés de panneaux solaires, que c'est une propulsion purement chimique, mais avec de l'énergie purement solaire, électrique. Philae, c'est une autre affaire. Ce que j'aimerais juste rectifier par rapport à ce qui est dit dans le reportage, c'est que Philae, ce n'est pas l'Agence spatiale européenne qui l'a fait. Ça prend une demi-minute de le dire, mais je souhaite le dire malgré tout parce que, vous savez, quand le propre de l'Agence spatiale européenne, c'est une agence donc supranationale, avec un programme scientifique où toutes les agences contribuent à cela, et la France participe à la mission Rosetta en participant au programme scientifique. Mais que veut dire que l'ESA fait la mission Rosetta? C'est qu'elle a conçu la mission, elle a fait le satellite propre, elle a fait le lancement, elle fait les opérations. Mais tous les instruments qui sont à bord, ce sont des instruments qui sont sélectionnés sur une base compétitive, sur la base d'un appel d'offres où tout le monde peut proposer quelque chose. Et l'atterrisseur, pour des raisons financières en fait, n'a pas été un système proposé par l'Agence spatiale européenne. L'atterrisseur a été proposé comme une contribution instrumentale. C'est-à-dire que dans l'appel d'offres, vous pouviez proposer une caméra sur l'orbiteur, vous pouviez aussi proposer ce qui s'appelait à l'époque un Surface Science Package, un petit truc pour aller se poser à la surface. Et nous sommes un petit nombre à avoir proposé un tel instrument. Et Philae, en fait, est le résultat de la mise en commun d'un certain nombre de propositions qui ont été faites. Moi, j'avais fait une proposition avec le CNES, certains avaient fait une proposition, les Américains avaient fait une proposition, JPL, les Allemands ont fait une proposition. Les Américains, finalement, ont quitté la barque. Et l'ensemble des Européens s'est mis ensemble pour faire quelque chose qui a regroupé un peu tous les moyens que l'on avait. Mais il a fallu concevoir un consortium, de concevoir une manière de développer ces choses. Parce qu'il s'avère que c'était pas un instrument, c'était beaucoup plus qu'un instrument. Il y a 10 instruments à bord, plus tous les systèmes, puisque c'est un véritable véhicule. Et donc, tout d'un coup, de fabricant d'instruments, il a fallu qu'on se transforme en fabricant d'un système qui avait son autonomie, ses moyens de navigation, ses moyens de communication, son énergie à bord, son ordinateur, les moyens de travailler, de faire travailler 10 instruments, etc. Dans une masse qu'on nous a imposée, qui était donc 100 kilos au total.
Oui. Quelle taille il faisait, Philae ?
C'est à peu près 1 mètre cube, on va dire. Oui, vous voyez, c'est un engin.
C'est pas très
grand. Non, c'est tout petit, ça fait une centaine de kilos. Mais la difficulté, c'était quoi ? C'était que il a fallu, d'abord on a fait un appel d'offres pour les instruments eux-mêmes, il a fallu concevoir les instruments, mais comme le but de tout ça, c'était de se poser pour analyser le matériau, avant même que le Soleil n'ait les transformé. On a voulu se poser loin du Soleil pour que le Soleil n'ait pas commencé lui-même à modifier, parce qu'on voulait vraiment avoir le matériau d'origine tel qu'il a été formé il y a 4,5 milliards d'années. Et donc on avait choisi de se poser à trois fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire trois unités astronomiques, à près de 500 millions de kilomètres du Soleil. À nouveau, uniquement pour être sûr que le matériau soit vraiment le matériau d'origine. Mais bien sûr, la contrepartie, c'est que si vous allez loin du Soleil, il fait très froid. Il fait très froid, on a très peu d'énergie parce qu'on n'avait pas le droit d'embarquer de matériaux radioactifs. Et donc, on n'a que de l'énergie solaire et des batteries. Eh bien, pour vous donner un ordre de grandeur, il faisait à la surface, on savait qu'il allait faire à la surface quelque chose comme moins 150 degrés. Il fallait fabriquer des instruments capables de travailler à moins 150 degrés, ce que personne n'avait jamais fait. D'ailleurs, une grande partie du matériau, des instruments ne peuvent pas travailler à cette température. L'électronique en particulier, il faut la réchauffer jusqu'à moins 50, ce qui est déjà pas mal. Eh bien, vous savez qu'à l'intérieur de tout ce système de Rosetta, il y a une quarantaine de kilos qu'il a fallu réchauffer de moins 150 à moins 50 degrés. Ça paraît pas beaucoup, mais 40 kilos à réchauffer de 100 degrés, il faut de l'énergie pour tout ça. On a 10 instruments à bord, dont une foreuse capable d'aller chercher des échantillons sous 30 cm de quelque chose réputé aussi dur que du ciment ou du béton, etc., etc. Eh bien, pour faire tout ça, on a une puissance embarquée qui est à peu près la moitié de la petite lampe que vous avez dans votre réfrigérateur. Vous savez, vous avez une petite lampe qui fait 18 watts, on a la moitié de ça, 10 watts. Avec 10 watts, il faut savoir faire tout ça. C'est pour ça que la difficulté de cette mission-là, c'était de concevoir un système capable de supporter toutes les contraintes, qui sont surtout des contraintes de température et de puissance. Mais par exemple, on a fait ça dans les années 90. Comme c'est tout un système, il y a un ordinateur de bord, donc il faut des mémoires de bord. Vous savez quel est le contenu en mémoire de tout ce qu'il y a dedans, qui est chargé de tout surveiller, de contrôler les communications, d'opérer 10 instruments en séquence, etc. D'envoyer tout ça, il y a un système de transmission. Pour tout ça, on a une mémoire de 4 mégaoctets, l'équivalent d'une image que vous faites avec votre appareil téléphone. La mémoire de bord de Philae est 1000 fois moins puissante que ce que vous avez dans votre téléphone portable. Pourquoi ? Parce qu'il y a 30 ans, c'est ça qui était disponible. Et donc, il a fallu mettre dedans, de la part des ingénieurs, des trésors d'intelligence pour faire malgré. C'est pour ça que c'est une mission qui, parce que justement, ce n'était pas une agence, mais un consortium de gens, on a fait avec les moyens que l'on a pu avoir, qui sont quand même des gros moyens, parce que le CNES s'y est mis, l'agence spatiale italienne, allemande, tout le monde s'y est mis. Mais malgré tout, c'est pas fait par une agence spatiale. Et c'est pour ça que oui, certes, on a accepté l'idée que l'Europe s'est posée, parce qu'on est sur une mission européenne, celle de l'Agence spatiale européenne. Mais c'est un consortium tout à fait exemplaire et particulier qui a réussi à faire cela.
Vous avez raison, Jean-Pierre Bibring, on va rendre à César ce qui est à César. Donc, ce petit Philae a une autonomie de 60 heures, et donc, il a vraiment besoin de dormir.
Réveil dans l'espace, celui-ci, qui doit de nouveau sonner aujourd'hui à près de 700 millions de kilomètres de la Terre. Un peu plus de 2 mois après Rosetta, c'est le passager de la sonde européenne qui doit être réveillé depuis la Terre, le robot Philae. Béatrice Duguay.
Avant de réussir cette prouesse spatiale, il faut donc réveiller Philae, car le robot dort depuis plus de 3 ans par souci d'économie d'énergie. Seule sa température est contrôlée, comme celle d'un animal qui hiberne. Aujourd'hui, fini la longue sieste, c'est presque aussi simple qu'un ordinateur à redémarrer pour Philippe Godon, chef de projet du CNES.
Maintenant, vous télécommandez ce qui se passe dans votre maison en étant loin. Là, il s'agit de quelques kilomètres, mais le principe reste le même, même si on est à 700 millions de kilomètres de la Terre. Bon, au lieu d'une petite télécommande, il faut de grosses antennes et il faut beaucoup de centres derrière pour arriver à faire fonctionner l'ensemble.
Les scientifiques vont télécharger aussi un nouveau logiciel de vol. Puis, à partir du mois de mai, Rosetta va freiner pour se rapprocher de la comète et l'observer en même temps pour déterminer un lieu d'atterrissage. Car le but est de poser Philae sur Churyumov-Gerasimenko début novembre, une comète aux aires de caverne d'Ali Baba de notre système solaire.
On pense que ce sont les archives du système solaire, les glaces, les poussières, tout ce qui est contenu là, était autour du proto-soleil il y a 4,5 milliards d'années. Et parmi ces choses-là, on cherche plus particulièrement des molécules complexes qui contiennent beaucoup d'atomes et qui pourraient être le chaînon pour arriver jusqu'à la vie sur Terre.
Parce que ces comètes glacées tombées en masse sur Terre auraient ni plus ni moins créer les océans.
Jean-Pierre Bibring, ce petit Philae donc, qui a rebondi, qui n'a pas donné de signe de vie pendant d'interminables minutes au moment de son atterrissage, accométissage pour certains. Donc il avait une autonomie de 60 heures. À partir de février à peu près, on a pensé qu'il n'allait plus se réveiller. Alors comment vous voyez l'avenir de Philae maintenant?
Philae est posé sur une comète qui est en train de s'éloigner du Soleil, donc il fait de plus en plus froid. On sait qu'à ce moment-là, il passe dans un mode très particulier, qui est un mode d'hibernation. Donc non, on ne pourra pas le réveiller dans les mois qui viennent. Et comme on a besoin d'un relais, que le relais c'est la sonde principale Rosetta, et que celle-ci elle va arrêter sa vie le 30 septembre de cette année, de ce point de vue-là, eh bien, la mission Rosetta et donc la mission Philae va se terminer. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que dans 6 ans, Philae ne va pas se réveiller, mais même s'il se réveille, on n'aura pas les moyens tout de suite d'entendre ce qu'il va être capable de nous dire et de recevoir, de le programmer. Il y a des projets d'ailleurs qui consistent à essayer de retourner sur cette comète pour retravailler avec Philae. On verra bien s'ils sont acceptés ou pas. Mais effectivement, ce que l'on prépare maintenant, c'est la fin de la mission. Donc en septembre de cette année, le 30 septembre exactement, la sonde Rosetta va se poser sur le noyau cométaire progressivement pour essayer d'analyser au plus près ce noyau-là, peut-être très près d'ailleurs de là où Philae est. Et donc, une semaine ou deux avant ce 30 septembre, c'est ce que l'on prépare actuellement, on va faire un grand événement, je pense, sur la fin de Philae, puisqu'il y a un moment où on va arrêter le contact avec Philae. Pour l'instant, on a un émetteur sur Rosetta qui en permanence écoute et envoie des signaux à Philae. Tout ça va s'arrêter à un moment donné. Et donc, on veut faire un événement à ce moment-là et envoyer à Philae des messages. Donc, tout auditeur qui a envie de faire un dessin, envoyer un message de bonheur ou de malheur à Philae, c'est le moment. Vous aurez en ligne les endroits où les poster. Et en quelques heures qui vont précéder l'arrêt des communications, on va envoyer tout ça là-haut pour que Philae sache que beaucoup de gens sur cette planète pensent à ce qui s'est passé et pensent toujours à lui.
Mais c'est vrai qu'on a quand même en mémoire les incroyables images de la comète qui nous sont parvenues. Et puis justement avec les 3 petits pieds de Philae au sol dans la neige qui a laissé ses traces.
Ce n'est pas de la neige. En fait, le matériau à la surface, c'est ça qui a été d'ailleurs une des grandes découvertes que l'on a faites. Il n'y a pas de glace, il n'y a pas de neige à la surface. Le matériau que vous voyez, c'est ce matériau organique. Ce sont ces macromolécules, ce sont probablement ces acides aminés, ces protéines, peut-être ces enzymes qui, bloquées là-dedans, ont pu donner naissance, en tout cas les mêmes, dans d'autres objets équivalents à la vie sur Terre il y a 4,6 milliards d'années. Donc la glace n'est pas ce que l'on voit sur les images. C'est un peu trompeur parce que quand on est obligé d'augmenter la dynamique pour voir quelque chose, on a l'impression que c'est très brillant. Non, c'est un matériau extraordinairement sombre qui sont cette suie organique d'origine bloqué dans ce noyau cométaire et qui a joué un rôle absolument fondamental qui fait qu'on est là aujourd'hui pour en parler.
Et vu la série d'exploits qui ont été réalisés, quand même, Jean-Pierre Bring, vous gardez un petit espoir de recueillir encore des données de Philae ?
Probablement pas de recueillir des données, mais d'exploiter les données qui ont été recueillies par Philae, ça c'est sûr. On a une moisson de choses pour les générations de scientifiques qui arrivent, qui est absolument phénoménale. Et c'est comme ça que ça progresse les choses. Alors on a toujours effectivement une frustration, on s'est dit on aurait peut-être dû en faire plus, faire ceci plutôt que cela. Il y a toujours cela. Et d'ailleurs, on travaille là-dessus pour que les missions suivantes profitent des erreurs éventuelles qu'on a pu faire. Mais il restera, à mon avis, que cette mission-là a été tout à fait exemplaire de la manière de construire des programmes sur la longue durée. J'espère que les jeunes générations vont comprendre qu'il faut démarrer jeune parce que c'est des affaires qui durent 20, 25, 30 ans. Et de mon point de vue, cette mission-là, elle clôt une ère qui a été inaugurée, comme on l'a vu la dernière fois avec la première mission vers la Lune en janvier 59. L'homme a acquis la capacité d'aller ailleurs et là, on vient de clore la première valse, la première salve, on peut dire, d'exploration du système solaire en se posant sur un noyau cométaire et en analysant pour la première fois ce matériau peut-être à l'origine du vivant.
Merci Jean-Pierre Bibring, c'est la fin de cette balade sur une comète. C'était Explorer l'espace, une émission de Lydia Benitzrach réalisée par Luc Jean Reynaud. À la technique, Stéphane Touvenin. Documentaliste Ina Annie Lozana, site internet Arthur Béranger. On se retrouve la semaine prochaine et cette fois, on s'attaquera carrément à la planète Mars.